Eh bien, nous voici donc arrivés au petit 2, l'ethnologie, l'anthropologie, la constitution d'une discipline. Ce qu'il convient d'emblée de préciser, c'est que c'est bien au 19e siècle que va se constituer véritablement l'anthropologie comme discipline autonome, débarrassée des préjugés, débarrassée des prénotions, hein, la science des sociétés primitives dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire linguistique, économique, culturelle, politique, religieuse, psychologique, etc. Alors que, en même temps, se produisent en Europe des mutations au niveau des modes de vie, au niveau des relations sociales, etc., du fait des deux grandes révolutions, l'une politique que la France a connue, notamment, la Révolution française, et l'autre économique que l'Angleterre a connue, en l'occurrence la Révolution industrielle. Bien, alors, l'Europe confrontée donc à une conjoncture particulière, elle n'est plus ce qu'elle était. Nous sommes donc en présence ici d'un monde qui s'achève et de notre monde qui naît ou qui est en train de naître. Or, au XIXe siècle, le contexte géopolitique est tout à fait nouveau. C'est la période de la conquête coloniale, hein, qui va aboutir notamment à la signature de l'acte de Berlin. L'acte de Berlin qui est signé en 1885 et qui va régenter le partage de l'Afrique entre les différentes puissances européennes. Cet acte de Berlin va mettre fin aux souverainetés africaines. Vous savez que l'Afrique était commandée par des rois, il existait de nombreux royaumes, le royaume d'Abomey, le royaume de Motapa, etc., etc. Et il y a quelques royaumes qui sont restés heureusement, très peu. Ces royaumes vont disparaître. Et quand ils disparaissent, eh bien, ce sont les Occidentaux, les Européens en l'occurrence, qui vont prendre le relais, qui vont diriger ces différents pays jusque-là sous la coupe ou dirigés par des souverains. Donc, ça, c'est un événement nouveau aussi qui se produit là-bas. Alors, il va se passer un autre événement qui est important. C'est que au moment où ces souverains ne vont plus exister, remplacés par des Européens, la conquête coloniale va se faire. Et c'est dans ce mouvement de conquête, d'ailleurs, que l'anthropologie va naître. Et elle va suivre de très près le pas du colonisateur. Bien. Alors, à cette période, de nombreux émigrants européens vont aller peupler l'Afrique, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Asie, l'Australie, etc. Et parmi ces émigrants, il n'y aura pas que des missionnaires, hein, mais il y aura aussi des administrateurs coloniaux, ils étaient nombreux d'ailleurs, ils étaient nombreux tant du côté de l'Angleterre que du côté de la France, hein, qui vont aller gouverner ou sinon tout simplement administrer ces pays-là. Ainsi, on voit se mettre en place tout un réseau d'informations. Un réseau d'informations constitué non pas par des missionnaires, non plus seulement par des administrateurs, mais dans le lot des émigrants, il y auront des individualités. D'autres, des francs-tireurs, des voyageurs, comme ça, des gens qui vont comme ça, à l'aventure. Mais tout ce beau monde qui va, entre guillemets, beau monde qui va se constituer, qui va déferler en Afrique, va constituer pour les anthropologues, pour les chercheurs, un bon réseau d'informations. Un bon réseau d'informations. Ainsi, les chercheurs qui sont, eux, confortablement installés en métropole, vont devoir envoyer de nombre de questionnaires dans les quatre coins du globe. Des questionnaires qui seront remplis. Remplis par qui ? Mais par tous ceux qui sont en train de vivre aux côtés des indigènes, là-bas, dans ces pays-là, qui vivent aux côtés des indigènes. Ils remplissent ces questionnaires et ils vont les renvoyer à qui de droit, et notamment à ceux qui le leur avaient envoyé. Ils renvoient ces questionnaires. Ces questionnaires, une fois réceptionnés par les différents chercheurs, vont être interprétés, analysés. Une grande réflexion va se mettre en place à partir de ces questionnaires. Et voilà que vont être écrits les premiers grands ouvrages d'anthropologie. Et parmi ces chercheurs qui vont écrire ces ouvrages d'anthropologie, il y aura, par exemple, en 1865, un certain MacLennan. MacLennan, Mac, M-A-C, plus loin, Lennan, L-E-N-A-N. Un certain MacLennan, lui, écrira l'ouvrage intitulé « Le mariage primitif ». Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1871, ce sera au tour de Taylor. Le Taylor, attention, ne pas confondre avec Taylor. Ne pas confondre avec Frédéric Taylor, l'Américain, qui avait été à l'origine de l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Ça n'est pas celui-là. Là, il s'agit de Taylor. Taylor qui va écrire un ouvrage intitulé « La culture primitive ». Et figurez-vous que c'est de lui qu'on tient la première définition de la culture. Hein? La première définition de la culture, on la tient de Taylor. Et enfin, il y aura en 1877 l'ouvrage écrit par Lewis Morgan. Lewis, L-E-W-I-S. Plus loin, Morgan, M-O-R-G-A-N. Morgan écrira un ouvrage intitulé « La société primitive ». La société primitive. Alors, sachez que tous ces ouvrages n'ont qu'une grande ambition, celle de dresser un véritable corpus ethnographique de l'humanité. Et on lira dans ces ouvrages, on comprendra à partir de ces ouvrages que l'indigène des sociétés archaïques, l'indigène donc des sociétés extra-européennes, va devenir le primitif, c'est-à-dire l'ancêtre du civilisé, appelé à rejoindre le peloton de tête et la colonisation devra y veiller. L'anthropologie, comme mode de connaissance du primitif, reste indissociablement liée à la connaissance de notre origine, c'est-à-dire à la connaissance des formes simples d'organisation sociale et de mentalité, vers des formes de plus en plus complexes des sociétés modernes, des sociétés européennes. Cette anthropologie dont nous venons de mettre en évidence les caractéristiques, cette anthropologie-là va être qualifiée d'évolutionniste. Elle sera évolutionniste. Sa pensée est évolutionniste, comme nous le verrons plus loin d'ailleurs.